Le journal de l'économie avec François Geffrier.
L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, de l'argent de poche à la gestion budgétaire d'une famille, à la semaine de l'éducation financière se tient à partir d'aujourd'hui. Les ambitions de Rodolphe Saadé dans les médias avec le rachat de BFM TV et RMC à Patrick Drahi. Et puis cette fois, c'est fait, les Pays-Bas ont choisi le groupe français Naval Group pour la construction de leurs quatre futurs sous-marins. Et si le rôle de la Banque de France était aussi de surveiller l'argent de poche de nos enfants? Alors non, ça n'est pas au programme, mais l'institution veut apprendre aux jeunes à gérer leur budget, même très modeste. Alors en partenariat avec l'Éducation nationale, la Banque de France organise des formations de 2 heures auprès des élèves de 4e dans le cadre de la semaine de l'éducation financière. Elle espère toucher toute cette classe d'âge, ce qui fait 750 000 élèves. Ils étudieront quelques notions comme le fonctionnement d'un compte bancaire ou la définition des taux d'intérêt quand même. Le niveau global en culture financière progresse lentement, mais la France reste en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, Zoé Palier.
Un Français sur 4 manque de culture financière et ne sait pas répondre à des questions jugées simples. Par exemple, définir l'inflation ou un taux d'intérêt. Les femmes et les jeunes sont les plus en difficulté, indique Marion Devagener, directrice d'Alliance Patrimoine, qui a conduit une enquête sur ce sujet.
Parmi les baby-boomers, on a 21% de répondants qui sont très compétents en matière financière. Et si on compare à la génération Z, donc entre 15 et 25 ans, on tombe à seulement 6%.
Il suffit pourtant de maîtriser quelques notions basiques pour prendre de meilleures décisions en matière d'épargne, d'où l'intérêt de former tous les collégiens dès la 4e avant qu'ils n'ouvrent un compte bancaire. Simon Ovard est référent éducation financière au sein de la Banque de France.
Il y a aussi une notion d'équité. Des enfants de parents qui travaillent dans des catégories socio-professionnelles plus élevées sont plus sensibilisés à des thématiques financières. Et puis il y a 30% de jeunes qui déclarent avoir déjà reçu une offre pour prêter ou emprunter de l'argent via Internet ou sur un réseau social. Donc c'est pour éviter aussi des arnaques dans lesquelles ils pourraient tomber s'ils n'avaient pas été sensibilisés.
La Banque de France organise aussi des formations plus approfondies auprès d'élèves en lycée professionnel, rémunérés lors de leur stage, pour leur expliquer par exemple le principe des impôts.
Zoé Palier, c'est le gros deal de ce début d'année. L'armateur CMA-CGM que pilote Rodolphe Saadé rachète les activités médias d'Altice, le groupe de Patrick Drahi, géant des télécoms, qui avait démarré lui cette incursion dans les médias il y a près de 10 ans avec BFM TV et RMC. L'armateur franco-libanais consolide donc le groupe de presse qu'il est en train de constituer. Bonjour Philippe Bailly.
Bonjour.
Vous êtes le président de NPA Conseil, spécialiste de l'économie audiovisuelle. D'abord, pourquoi Patrick Drahi est-il contraint de vendre BFM et RMC?
Il a deux raisons de vendre. L'une classique, il a payé cet actif à peu près 800 millions. Il le vend à 1,5 milliard. Ça veut dire qu'il a fait une très belle plus-value. Donc ça, ce principe général, il est doublé dans le cas d'Altice par le fait qu'il y a une dette colossale portée par Altice en général et Altice France en particulier. Patrick Drahi a construit Altice en levant beaucoup de dettes à une période où les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. La conjoncture a changé, les taux d'intérêt ont remonté. Le business des télécoms est un peu moins flamboyant aussi que ce qu'il était. Et l'un plus l'autre, ça veut dire qu'à un moment, ça n'est plus tenable de continuer à porter des dettes aussi lourdes. Et donc, il y avait un besoin de désendetter. Et encore une fois, la réalisation d'un actif, ça sert aussi à ça, alléger la dette.
Et alors, que va-t-il rester dans le groupe Altice?
Une fois BFM et RMC vendus, il reste à Altice son métier de base, c'est-à-dire celui d'opérateur qu'on connaît en France à travers SFR. Autrement dit, la parenthèse Altice et les contenus qui avaient été ouvertes avec force il y a une petite dizaine d'années par Michel Combes quand il était à la tête du groupe, cette parenthèse-là, elle est bel et bien terminée. Et encore une fois, il y a un recentrage d'Altice sur ses offres SFR, que ce soit en accès fibre, accès Internet fixe ou à travers le mobile.
Voilà pour Altice. Et en face, côté CMA-CGM, on peut dire que l'armateur devient aussi un poids lourd dans le secteur des médias.
Ça fait un an et demi déjà qu'on connaît les ambitions de Rodolphe Saadé dans le domaine des médias. Il était un des acteurs de la vente avortée d'M6. Il a ensuite racheté la Provence, racheté la Tribune, pris une participation dans Brut. Ça fait aujourd'hui un ensemble d'à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ça restait modeste. Aujourd'hui, avec le rachat des activités médias d'Altice, il fait un vrai pas en avant. Il met une somme importante sur la table, 1,5 milliard, mais il aura demain un ensemble qui pèsera 450 millions, 500 millions d'euros. Il a en parallèle pris 10% du groupe M6. Il se met en embuscade pour devenir ce qu'il avait annoncé vouloir être, un des très grands acteurs du secteur des médias.
Merci beaucoup Philippe Bailly, président de NPA Conseil, spécialiste de l'économie audiovisuelle, invité du journal de l'économie de Radio Classique. On parle ce matin de l'élection présidentielle hier en Russie, qui n'était qu'une formalité pour Vladimir Poutine. L'occasion de se pencher sur la santé de l'économie russe. On sait que les sanctions économiques depuis 2 ans n'ont pour l'heure pas produit d'effets spectaculaires. Cyril Bray, qui est chercheur à l'Institut Jacques Delors, explique comment l'industrie de l'armement participe largement au maintien à niveau de l'activité économique en Russie.
Les indicateurs sont beaucoup plus favorables au pays qu'escompté, avec un taux de croissance très fort et un taux de chômage extrêmement bas. Le complexe militaro-industriel contribue traditionnellement au dynamisme de l'activité et contribue entre 10 et 15% des exportations en valeur de la Russie et emploie des dizaines de milliers de personnes à travers le pays. Le complexe militaro-industriel est tout particulièrement important pour l'animation économique de la Russie orientale, de la Sibérie occidentale et de la zone Ourale.
Cyril Bray, on reste sur le sujet de l'armement avec ce contrat à au moins 4 milliards d'euros. Les Pays-Bas ont signé pour l'achat de 4 sous-marins Barracuda auprès du groupe français Naval Group. Première livraison prévue en 2034. Ces choses-là mettent toujours un peu de temps à être construites. L'appel d'offres avait été lancé il y a 9 ans. C'est un beau succès en tout cas pour le groupe français Naval, dirigé par Pierre-Éric Pommelet, qui vend pour la première fois son Barracuda à l'étranger. Céline Cajolis.
Pour cet appel d'offres, Naval Group a proposé une version conventionnelle, c'est-à-dire à propulsion diesel électrique, de son sous-marin d'attaque le plus sophistiqué, le Barracuda, et qui pour la France est à propulsion nucléaire. Conçu pour naviguer très loin de ses bases, pendant longtemps et en toute discrétion, capable de tirer depuis les profondeurs vers la Terre, y compris des torpilles lourdes intelligentes, répondant ainsi, selon le ministre français de la Défense, aux plus hauts standards mondiaux. Si l'essentiel des sous-marins seront fabriqués à Cherbourg, l'appel d'offres prévoit une contribution importante de l'industrie néerlandaise avec qui Naval Group travaille depuis déjà plusieurs décennies et dont c'est d'ailleurs le deuxième partenaire à l'international. Un contrat qui doit encore être voté par le Parlement néerlandais et chez Naval Group depuis l'affaire des sous-marins australiens, on sait que ça n'est pas une simple formalité. Un contrat qui permet aussi à Naval Group de rééquilibrer son carnet de commandes pour être moins dépendant des commandes publiques françaises avec d'ici à 2031 environ 40% des activités à l'international.
Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. Avant les Jeux Olympiques cet été, est prévu un autre temps fort touristique pour la France, le 80e anniversaire du débarquement. Près de 6 millions de visiteurs attendus en Normandie, ce qui va ravir les hôteliers comme Jules Viel, qui est le patron du Chour, à 75 km des plages à Argentan dans l'Orne.
On a été un peu surpris. Les gens ont réservé 6, 7, 8 mois à l'avance. Voilà, c'est booké, tout est acté, etc. Il n'y a pas assez d'hébergement sur la côte. Et puis, on n'est quand même pas au même tarif qu'un hôtel qui est vraiment sur la côte, sur les plages, etc. Après, je pense que nous, on a beaucoup de capacités. On a la plus grosse capacité d'Argentan en termes de chambres. Et là, nous, on a encore beaucoup de demandes de groupes actuellement. Ils veulent vraiment avoir 30, 35, 40 chambres pour eux. Les 10 jours du débarquement, nous, on a une chaîne de télévision anglaise et on a un groupe de personnes âgées quoi, qui viennent visiter. Et puis le reste, c'est de l'individuel.
Un mot très rapide des marchés financiers pour vous dire que le Nikkei en ce moment progresse de 2,5% et l'euro est à 1,0888. Le baril de pétrole, le Brent, à 85 $. Dans un instant, Virginie Fulpin et David Abiquet.